Radio Afrique. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mamadou Koumfa, pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 14 mars 2025. Voici le sommaire. Le groupe Rebelle M23 accueille favorablement l'annonce de pourparlers directs avec le gouvernement de la RDC, prévu le 18 mars en Angola. Nous parlerons des enjeux de ces pourparlers avec l'ancien gouverneur de la province congolaise du Kasaï occidental, Hubert Kabasubabou.
Et beaucoup d'acteurs politiques, tant au niveau national qu'international, ont salué la démarche de M. Tshisekedi pour qu'enfin, finalement, ils puissent accepter de parler avec les leaders de l'AFC M23.
Pendant ce temps, les pays d'Afrique australe mettent fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la RDC et ordonnent le début d'un retrait progressif des troupes.
Le M23 se retrouve en position de force vis-à-vis de Tshisekedi et pourrait même imposer leur calendrier à Tshisekedi, ce qu'on pourrait arriver à un renversement de situation à Kinshasa avec un fait de régime de Tshisekedi à Kinshasa.
L'analyse de Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, à suivre dans cette édition. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit en faveur d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine à certaines conditions, une attitude très prometteuse selon son homologue américain Donald Trump. On fera le point avec une équipe de VOA à Moscou et le politologue américain Simon Serfati. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans quelques instants. L'Angola, pays médiateur dans le conflit dans l'est de la RDC, a annoncé mercredi le début des négociations de paix directe dès mardi prochain entre délégations du gouvernement congolais et du M23 qui s'est emparé de larges pans du territoire congolais. L'ancien gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabasubabou, fait la lecture des enjeux de ces pourparlers et de l'acceptation du président Félix Tshisekedi de finalement négocier avec l'AFC M23. Il répond aux questions de Antoine Roger Bolamba.
C'est une démarche, je dis, sympa, un pas très significatif dans le processus de la recherche de la paix et de la stabilité en RDC. Et beaucoup d'acteurs politiques, tant au niveau national qu'international, ont salué la démarche de M. Tshisekedi pour que, enfin, finalement, ils puissent accepter de parler avec les leaders de l'AFC M23, en dépit du fait que, dans le passé, il avait catégoriquement refusé de les rencontrer et que même, il avait récemment, il avait mis la tête de Nanga, de M. Corneille Nanga et de M. Bissimoua, M. Makenga et même votre collègue journaliste Perro Louara, il avait mis leur tête à prix. Et donc, on considère que c'est une avancée assez significative pourvu que ces dialogues puissent se matérialiser.
Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a changé du côté de Félix Tshisekedi pour que finalement, il puisse accepter cette fois-ci de dialoguer?
Écoutez, il y a d'abord le fait qu'au début, il avait semblé, lui et son régime, ils avaient semblé mépriser l'AFC M23, mais ils se sont rendus compte très vite du fait que il y a eu accélération en fait des conquêtes de plusieurs villes, je veux dire, importantes, notamment Goma et la capitale du Nord Kivu et Bukavu, avec même l'impulsion d'une avancée, d'une marche vers Uvira pour une percée vers Kalemi, dans le Katanga, et même vers Kindu, dans le Maniema. Je pense que c'est cette percée, mais également le fait que l'AFC M23 a su recruter de milliers de militaires congolais qui étaient désemparés, frustrés, abandonnés, mais l'AFC M23 a aussi récupéré un arsenal militaire important. Donc l'AFC a augmenté, amélioré sa puissance de feu, mais également les troupes, et a eu maintenant un peu plus de puissance dans les rapports de force. Je pense que c'est la donne principale, mais également le fait que beaucoup de présidents africains ont insisté sur le fait que M. Tshisekedi devait négocier avec les M23.
Hubert Kabasubabou, ancien gouverneur du Kasaï occidental en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La fin annoncée de la mission militaire de la SADC dans l'est de la RDC soulève des questions sur l'impact potentiel de ce retrait sur la stabilité régionale et sur les mesures que la communauté internationale devrait adopter pour soutenir durablement la paix et la stabilité dans cette région. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège.
Cette position de la SADC ne fait que renforcer la position du M23 dans sa stratégie de pouvoir contraindre Tshisekedi à s'asseoir autour de la table avec eux pour échanger par rapport au futur du Congo. Et dans cette position actuelle, avec ces différentes décisions qui sont prises, le M23 se retrouve en position de force vis-à-vis de Tshisekedi et pourrait même imposer leur calendrier à Tshisekedi, ce qu'on pourrait arriver à un renversement de situation à Kinshasa avec un fait de régime de Tshisekedi à Kinshasa.
Quelles mesures la communauté internationale, y compris les organisations régionales africaines, devrait-elle prendre pour soutenir durablement la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, en particulier à la lumière de ces récents développements?
Il y a des pistes de sortie qui sont déjà sur la table, notamment l'initiative de la FENCO, donc l'Église catholique ainsi que l'Église protestante en RDC, qui ont balisé déjà le terrain, qui ont le soutien de pratiquement tous les pays de la région, pour qu'il puisse y avoir une discussion claire entre les différentes parties prenantes dans le conflit de manière interne, c'est-à-dire l'opposition armée incarnée par le M23 AFC de Corneille Nangaa, plus l'opposition politique avec Katumbi, Kabila, Fayulu et les autres, et avec le gouvernement congolais, pour essayer de trouver des pistes de solutions de sortie de crise. Il n'y a que cette piste-là qui est sur la table, qui est la plus crédible, sur laquelle les pays de la région soutiennent et qu'ils veulent que cette initiative parvienne à se concrétiser. Et donc, il n'y a que cette piste-là qui, de mon point de vue, est la plus crédible et c'est celle qui pourrait apporter une réponse et une certaine stabilisation de la RDC. Et que si cette initiative ne se concrétise pas, nous allons aller vers ce qu'on appelle une fragilisation de du Congo, une explosion de l'État Congo et qui pourrait déstabiliser non seulement le Congo, mais aussi beaucoup de pays de la région, notamment par exemple le Sud-Soudan, notamment par exemple le Burundi et d'autres encore pays qui pourraient être déstabilisés par l'instabilité congolaise.
Les négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 doivent débuter le 18 mars à Luanda sous médiation angolaise. Quels sont, selon vous, les principaux défis et opportunités associées à ces pourparlers de paix?
Il y a beaucoup de défis. Le premier défi, c'est qu'il y a quand même des entraves par rapport à cette discussion directe, parce que vous vous souvenez que la plupart des responsables du M23 AFC sont condamnés à mort par la justice congolaise, non seulement condamnés à mort, ensuite, il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre ces différentes personnes, et aussi, il y a même des appels avec des primes qui ont été offerts par le gouvernement congolais à toute personne qui contribuerait à arrêter les responsables donc de la rébellion. Dans ce contexte-là, vous imaginez que c'est un peu délicat de pouvoir aller vers des négociations à Luanda dans le contexte où il y a ces différentes décisions et que ces décisions doivent être levées. Et pour que ces décisions doivent être levées, ça veut dire qu'il y a des préalables et ces préalables risquent d'entraver la poursuite de ces négociations directes entre Kinshasa et la rébellion. Parce qu'il faut lever ces préalables et pour les lever, c'est des mécanismes qui sont assez lourds, des procédures judiciaires, des décisions judiciaires qui prennent un peu de temps. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir que le processus de Luanda va aboutir à quelque chose à cause des préalables que je viens de vous faire part.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré que l'initiative du président angolais dans le cadre de ces négociations, s'inscrit dans le cadre de la résolution 1773 qui ordonne aux rebelles du M23 de se retirer des zones qu'ils contrôlent. Est-ce que vous pensez que c'est une chose possible?
Ce n'est pas possible parce qu'il y a ce qu'on appelle un narratif qui n'est pas correct. Parce que quand vous demandez aux rebelles de se retirer des zones qu'ils contrôlent, ils vont se retirer pour aller où? Pour aller à Nouganda, parce qu'il faut bien se rendre compte que la rébellion M23 commence par l'Ouganda. Et c'est en Ouganda que cette rébellion a commencé. Quand vous dites qu'ils se retirent du rôle des zones qu'ils contrôlent, ça veut dire que vous leur demandez de rentrer en Ouganda plutôt que de rester là où ils sont, parce qu'une bonne partie des troupes, malgré l'appui de l'armée rwandaise, une bonne partie des troupes qui sont sur le terrain, ce sont des Congolais, mais vous voulez qu'ils se retirent pour aller où? Alors qu'ils s'occupent, ok, ce sera impossible de mon point de vue, impossible de pouvoir demander ça comme préalable. Si c'est ça comme préalable, ça veut dire à ce moment-là, c'est le feu vert qui est donné à la rébellion pour avancer et conquérir encore d'autres territoires. On ne sera pas étonné que d'ici quelques jours ou quelques semaines, qu'il y ait encore plusieurs villes qui vont passer sur leur contrôle.
Quel est le compromis gagnant-gagnant que vous voyez? dans ces négociations.
Le compromis gagnant-gagnant que nous voyons, au-delà des aspects sécuritaires et d'autres aspects, et de mon point de vue, qu'il est dans un premier temps qu'il faut d'abord résoudre la question congolaise, entre Congolais, et puis ramener, après, une fois que cette dimension est résolue, qu'on aille vers une dimension régionale. Dans la dimension régionale, il est impératif de ne pas uniquement voir le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Soudan du Sud, il y a le Burundi, il y a la Tanzanie, il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a tous les autres pays frontaliers, avec lesquels il est importantissime, de mon point de vue, de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie des rapports interdépendants. Et les rapports interdépendants entre ces différents pays ramènent à ce que l'interdépendance prend le pas sur des enjeux nationaux et que cette indépendance peut amener effectivement à ce qu'il puisse y avoir un climat de paix et un climat donc de cohérence nationale et d'arriver à avoir une dynamique régionale qui profite aux populations.
Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège et expert international au sein du programme Amani dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les pays africains, dont l'Ouganda, connaissent une augmentation du nombre de cas de maladies rénales, en partie due à un mode de vie sédentaire. Les experts de la santé appellent le public à prendre des mesures préventives contre ces maladies au lieu de s'en remettre à des traitements coûteux et aux greffes de reins. Reportage de Halima Atoumani et Moussaka Francis depuis Kampala. Le récit est de Alexandrine Holognon.
Haruna Mubiru a lutté pendant 3 ans contre des douleurs abdominales. Le personnel médical n'a cessé de diagnostiquer des ulcères et des infections, lui administrant des médicaments antidouleurs qui ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire. Un médecin lui a alors recommandé une tomodensitométrie qui a révélé qu'il avait un rein droit ectopique produisant des calculs qui ont dû être enlevés chirurgicalement. Les calculs rénaux sont des cristaux qui devraient se dissoudre dans les fluides corporels tels que l'urine, la salive ou la sueur. La surconcentration de ces liquides est à l'origine des calculs rénaux. Le docteur Steven Watia, urologue principal à l'hôpital Ouro Care de Kampala, explique certains des signes et symptômes qui précèdent la défaillance d'un rein en cas de négligence.
Une fois que le mouvement de l'urine est ralenti, vous permettez aux bactéries de venir d'en bas et de remonter, ce qui provoque une infection. Cela peut donc se manifester par une infection généralisée ou une infection à l'intérieur des voies urinaires. L'un des éléments clés est donc la douleur. Cette douleur peut être sourde, selon l'importance de l'obstruction, ou très intense.
Selon les experts, les principales causes des calculs rénaux sont les dispositions génétiques, la déshydratation, un mode de vie sédentaire, l'automédication et l'hypertrophie de la prostate chez l'homme. Le docteur Franck Assimoué, consultant en urologie et chirurgien transplanteur à l'hôpital national de référence de Mulago, explique que le régime alimentaire, en particulier la consommation de protéines animales, a augmenté le risque et les cas de calculs rénaux.
En partie parce que la population augmente, la classe moyenne augmente. Les gens qui ont de l'argent peuvent souffrir ce mode de vie et le régime dont je parle. Les gens deviennent de plus en plus sédentaires et font moins d'exercice.
And doing less exercise. Haruna a suivi les conseils du médecin.
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, buvez de l'eau. Si vous voulez survivre, je le fais. Et puis, ils m'ont dit de manger des légumes. Ils m'ont aussi aidé. Ils m'ont conseillé de manger beaucoup de légumes et de fruits.
Les traitements rénaux restent l'un des plus coûteux dans la plupart des pays africains, le moins cher coûtant environ 1 500 $, un coût que peu de gens peuvent se permettre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Apprendre l'art aux enfants et surtout aux jeunes filles, c'est l'objectif que s'est donné l'École du Beau, une école d'art située à Assini, à 85 km d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. une initiative qui, à long terme, pourrait permettre aux jeunes filles de faire carrière dans le milieu de l'art ou de l'hôtellerie. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Ange Nomegno, est allé à leur rencontre. Voici son reportage.
L'école du Beau en pleine prestation. Chaque enfant ici présent se donne à fond pour peindre un tableau artistique. Parmi eux, des jeunes filles âgées de 7 à 17 ans. Elles réalisent leurs tableaux sous la supervision de Akula Hamon, hôtelière et cofondatrice de l'école.
C'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que nos clients, qui sont devenus même des amis, nous accompagnent dans notre développement. Et ça nous donne aussi beaucoup de courage pour continuer. De là, nous est venue l'idée d'ouvrir une école pour de formation qui va s'appeler l'école du Beau.
Très bien.
Donc, l'hôtellerie, la culture, enfin tout ce qu'un majordome peut apporter. Il le trouvera à l'école du Beau.
L'école du Beau va donc former les jeunes apprenants et particulièrement les jeunes filles au métier de l'art et de l'hôtellerie. L'objectif est de répondre à un besoin de formation et d'emploi qui se pose à la station balnéaire d'Assigny.
Aujourd'hui, je suis formateur de ces jeunes talents parce que c'est ce qui est normal. On m'a formé, il faut que je forme et il faut qu'on transmette. Donc, transmission, transmission, transmission. Le message qu'ils doivent retenir, c'est que l'art en Côte d'Ivoire est en train de bouger. L'art, il bouge. Et aussi, ils verront aussi que nos parents, avant, qui ne voulaient pas qu'on fasse l'art, aujourd'hui, sont en train de changer. Et tu vois, ramènent aussi leurs enfants pour qu'on les forme, pour dire que là, a fait un pas en avant.
40 jeunes filles originaires d'Assigny seront formées à l'école du Beau. L'adhésion est gratuite et à la fin de leur formation, elles seront recrutées directement par les fondateurs de l'école pour travailler dans le milieu de l'art ou de l'hôtellerie.
On est en train de constituer un vivier, de sédentariser nos jeunes sur leur terre natale et leur permettre d'apprendre de vrais métiers, d'avoir une réelle lisibilité sur leur futur et afin de pouvoir être ici formés et pouvoir vivre ici en harmonie avec nous tous.
L'école du Beau repose sur un enseignement structuré autour de 8 disciplines fondamentales, dont la peinture, l'architecture, la sculpture et la musique. Elle est accessible aux jeunes de 7 à 17 ans et se déploie à travers des stages immersifs de 15 jours organisés pendant les périodes de congés scolaires. Ange Bujunomeyan pour VOA Afrique, de retour d'Assigny.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président russe Vladimir Poutine s'est dit hier en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine, à condition que certaines questions importantes soient réglées. Le président américain Donald Trump, qui a formulé ce projet de trêve de 30 jours, a jugé très prometteuse, mais pas complète, la déclaration de son homologue russe, ajoutant que ce serait très décevant pour le monde si, in fine, Moscou rejetait ce plan. Pour une analyse, Jacques Aristide, adjoint dans l'État américain du Maryland, Simon Serfati, ancien directeur du programme Europe au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.
Nous sommes passés d'un État très centré sur une guerre qui se poursuivrait indéfiniment à un moment où, effectivement, il est tout à fait possible d'entrevoir une trêve dans des délais relativement courts. Ceci étant dit, Poutine cherche à gagner du temps dans sa réponse, dans la mesure où il est dans une position de force, que les troupes ukrainiennes en Russie sont près de la retraite et qu'il continue d'avancer en territoire ukrainien. Donc il avance de nouveaux paramètres qui lui permettent de poursuivre son offensive et d'approfondir sa position de force pendant quelques jours, voire quelques semaines.
Le président Trump a qualifié la déclaration de Vladimir Poutine de très prometteuse, mais incomplète. Quelle marge de manœuvre les États-Unis ont-ils pour faire évoluer cette proposition de trêve et s'assurer qu'elle débouche sur un véritable processus de paix plutôt qu'un simple répit temporaire dans les combats?
À mon avis, il n'y a pas une grande marge de manœuvre et que le président s'est placé un peu dans l'embarras, puisqu'il semblait assurer que Poutine le suivrait dans sa démarche. Il a déjà fait des concessions considérables du point de vue des relations directes entre l'Ukraine et la Russie, et l'après-guerre, non-adhésion dans l'OTAN, les frontières territoriales suivant essentiellement le contour des combats, la levée des sanctions relativement rapidement. Poutine, dorénavant, en demande davantage, puisqu'il a déjà obtenu une partie de ce qu'il voulait, sans parler d'un potentiel de rupture entre les Européens d'une part et d'autre part entre les Européens et les États-Unis. Donc, à mon avis, Poutine aborde ses négociations de trêve sur une position également assez forte, et le président peut-être a trop concédé de ce point de vue.
Quid du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans toute cette situation ?
Zelensky, lui, c'est un pion à bien des égards. On ne sait plus de qui on parle. Le président Trump et son vice-président, du reste, ont eux-mêmes indiqué qu'au fond, ils regardent l'Ukraine comme un obstacle géopolitique à d'autres grandes avancées vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, etc. Poutine est intéressé à davantage que l'Ukraine. Il veut régler la question ukrainienne. N'oubliez pas que Poutine a beaucoup souffert en Ukraine. On exagère la victoire russe. Les Russes ont eu beaucoup de peine en venir là où ils sont, avec 800 000 morts et blessés depuis le début de la guerre. Mais pour Poutine, les objectifs vont au-delà de l'Ukraine, dans la mesure où il est très intéressé dans une rupture éventuelle de l'OTAN et de l'Union européenne au travers des différends, chacun se trouvant coupable vis-à-vis des autres pour la conjoncture dans laquelle nous sommes placé aujourd'hui. Donc Zelensky n'a vraiment plus beaucoup de choix. Le président n'avait pas tort lorsqu'il disait à Zelensky « Vous n'avez pas de carte véritablement à jouer ». Poutine dresse des obstacles au déploiement d'une force de réassurance gérée par les Européens en Ukraine. Zelensky veut finir la guerre parce qu'il sait qu'il ne peut pas la poursuivre davantage. Il n'a pas perdu dans la mesure où il a résisté héroïquement pendant 3 ans, a fait subir à la Russie un prix énorme pour leurs avances. Mais le temps n'est pas de son côté. Il lui faut absolument une trêve. Et cela fait de la peine de voir de quelle façon les Ukrainiens, ayant souffert autant qu'ils l'ont fait, sont dorénavant mis de côté. Ce n'est pas une trahison, mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'Ukraine n'était pas à même de gagner véritablement sur le terrain une guerre contre la Russie. Nous aurions dû le savoir comme nous le savions et agir en conséquence dès 2022.
Le politologue américain Simon Serfati, professeur émérite à l'université Old Dominion à Norfolk.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Les efforts de l'administration américaine pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine exercent une pression sur le Kremlin, mais Moscou a réalisé des gains territoriaux considérables et certains en Russie affirment qu'ils ne sont pas prêts à céder ces territoires. Suivons tout cela dans ce reportage de l'équipe de VOA à Moscou avec le récit de Michel Joseph.
Cette semaine, Moscou a subi la plus grande attaque de drones ukrainiens depuis le début de la guerre, faisant au moins 3 morts et 17 blessés. De nombreux moscovites tentent d'ignorer la guerre, mais beaucoup espèrent également que les négociations entre le Kremlin et la nouvelle administration américaine apporteront bientôt une paix que les Russes considéreront comme une victoire. Des responsables russes affirment que l'objectif est la reconnaissance internationale des nouvelles frontières que l'armée russe a obtenues par la force. Alexander Kramarenko, ancien ambassadeur russe.
Il est clair qu'il y aura un règlement bilatéral entre nous et Kiev. Ça devrait être un traité de paix qui légalisera les nouvelles frontières de la Russie et les frontières post-soviétiques de l'Ukraine.
À Moscou, beaucoup célèbrent déjà le nouveau scénario géopolitique avant même la fin du conflit. Yevgeny Fyodorov est député du parti au pouvoir à la Douma.
C'est une véritable victoire. Vous pouvez ouvrir le champagne. De plus, elle ne peut pas être perdue.
La Russie doit poursuivre l'offensive car personne n'a annulé les ambitions des États-Unis. Oui, ils ont peur de nous, mais cela ne signifie pas qu'ils ont renoncé à leur idée d'un empire mondial.
Après plus de 3 ans de guerre, le média indépendant Mediazona recense plus de 95 000 pertes côté russe. Mais ces pertes ne freinent pas le Kremlin qui poursuit la guerre. Lors d'une réunion avec des épouses et des mères de soldats décédés, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'y aurait aucune concession.
Nous n'allons pas faire cela. Nous devons choisir nous-mêmes une version du monde qui nous conviendrait et qui garantirait la paix pour notre pays sur une longue période historique.
Les critiques de Poutine ne peuvent s'exprimer que depuis l'exil. Selon eux, le Kremlin pourrait faire des concessions, mais renoncer à ses ambitions territoriales est hors de question. Anton Barbachine est directeur éditorial du groupe d'analyse sur la Russie, Griddle.
Des compromis peuvent être envisagés sur d'autres questions, notamment la manière dont l'architecture de sécurité ukrainienne sera construite après la guerre. Moscou veut être un acteur de la formation de cette nouvelle architecture de sécurité ukrainienne et, en réalité, définir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait.
Les responsables russes attendent avec impatience une rencontre avec des représentants américains après les discussions entre les équipes de négociation américaines et ukrainiennes en Arabie Saoudite.
Des otages israéliens récemment libérés de Gaza témoignent des conditions difficiles qu'ils ont endurées pendant 16 mois de captivité aux mains du Hamas, un groupe qualifié de terroriste par les États-Unis. Ces ex-otages affirment avoir été affamés et torturés. Nombreux sont ceux qui attribuent la libération au président Donald Trump et espèrent que ces efforts permettront la libération prochaine des otages restants. Reportage de Linda Grashtein depuis Jérusalem. Le récit est de Lionel Gaïma.
Elie Sharabi a été prise en otage au kibbutz Be'eri, près de la frontière avec Gaza, le 7 octobre 2023. Son frère, également pris en otage, a été tué en captivité. Jusqu'à sa libération, il y a un mois, Sharabi ignorait que sa femme et ses deux filles avaient été tuées à leur domicile par des membres du Hamas. Sharabi a décrit les tortures subies lors d'une récente interview à la télévision israélienne.
Je me souviens que je n'arrivais pas à m'endormir à cause de la douleur. Les cordes s'enfoncent déjà dans la chair et chaque mouvement vous donne envie de crier. Et il y a des moments où vous perdez connaissance. Vous vous réveillez au bout de 2 ou 3 heures et la douleur persiste.
Sharabi est resté en captivité pendant près de 500 jours, principalement dans des tunnels. Il a survécu avec quelques centaines de calories par jour, perdant 40% de son poids. La maigreur de Sharabi et ses deux autres otages libérés avec lui a choqué et suscité la colère des Israéliens. Le Hamas détient les restes de 35 otages tués en captivité et 24 autres qui seraient encore en vie. Leur famille affirme que le temps presse pour les sauver. Elon, le fils d'Edith O'Hell, l'un des otages restants, a été retenu captif avec Elie Sharabi pendant plusieurs mois.
Des otages récemment libérés ont rapporté que Aylan était confiné dans un petit tunnel sombre à 40 mètres sous terre depuis plus de 500 jours. Il est constamment enchaîné aux chevilles, frappé et soumis à la famine et a perdu beaucoup de poids. Il a reçu des éclats d'obus dans un œil, le rendant aveugle, et on craint fortement qu'il perde également la vue de l'autre œil.
Après avoir vu l'interview télévisée de Sharabi, le président américain Donald Trump a invité un groupe d'otages libérés à la Maison-Blanche et a lancé un ultimatum sévère au Hamas. Certains anciens otages, comme l'américano-israélien Keith Seagal, estiment que le président Trump représente le meilleur espoir pour les otages restants. Peu après sa libération, Sigo s'est rendu dans sa maison détruite de Kibbutz Kfar Aza et a enregistré une vidéo pour remercier Trump.
Je tenais à vous rappeler une fois de plus combien il est urgent de faire sortir tous les otages de Gaza et de les ramener auprès de leurs familles. Vous avez déjà accompli tant de choses et nous vous exhortons tous à poursuivre vos efforts et à utiliser vos moyens pour permettre de nouvelles avancées dans les accords d'échange d'otages.
Progress
L'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, s'était rendu au Qatar pour tenter d'obtenir la prolongation du cessez-le-feu actuel.
C'est la fin de cette édition. Au micro, Mouamadou Koumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester à l'écoute du programme de